France Inter.
La bande originale.
Oui, on est là.
Bienvenue. Bonjour Leïla Kadrovi. Bonjour Daniel Morin. Ce matin, nous sommes sur du haut de gamme, Leïla, dans cette bande originale.
On reçoit un duo, un réalisateur et son comédien qui nous entraîneront dans un trio d'amoureux, le temps de 4 épisodes et des 4 saisons. Je parle bien sûr de Nicolas Maury et de Lucas Bravo.
Un trio d'amoureux, mais il n'y a plus aucune moralité dans cette émission. Mais c'est si. La foire du
regarde, site. Regarde, Leïla, toi, moi.
Oui, il y a de l'amour.
Oui.
Hein ouais. Bon, d'accord.
Sympa. Nous allons parler avec Nicolas Maury et Lucas Bravo de cette série. D'abord, bienvenue. Lucas, c'est la première fois ?
Ouais.
Incroyable.
Alors ?
Oui. Bah ouais. Ouais, c'est déjà c'est un petit bilan, un petit bilan comme ça.
Voilà. Pour l'instant.
Et Nicolas Maury, c'est la première fois aussi ?
Oui.
Bizarrement, j'ai envie de dire, parce que. Non, on a plein d'occasions d'évoquer votre travail. Et,
vos films ?
Ces jeunes gens m'angoissent.
Pourquoi ? Ah ouais.
Ils me regardent avec une certaine animosité.
Ils ont été fouillés, ils sont passés.
Je suis un homme. Vous pouvez me respecter aussi.
Respectez-moi.
On va, dans cette bande originale, évoquer un film qui s'appelle Les Saisons, qui passe sur Arte.
Je dis
un film, ouais, c'est une série, mais c'est comme un film.
Ouais, c'est mieux qu'un film.
C'est, ouais.
C'est beaucoup mieux.
Ça, on va voir. C'est une histoire sur une trentaine d'années qui démarre sur des histoires d'amour, justement, histoire d'amour.
Ah voilà. Oh non, Nagui, non.
Je veux tout savoir de vos histoires d'amour. Oh non, mais surtout, seriez-vous capable de retomber amoureuse ou amoureux d'une histoire d'amour d'adolescence.
Non.
Emma.
Merci Leïla.
Je sais pas, non, je crois pas. Enfin, je crois que
en même temps,
pourrais...
c'était pas il y a pas longtemps.
Ouais, voilà. En même temps, j'ai 14 ans. Mais... Non, je sais pas. Non, je crois que je pourrais fantasmer ce que peut-être on aurait pu devenir. Ouais. Mais je crois que non, je pourrais pas.
Pas retourner. D'accord. Ouais, Leïla, c'est non direct.
Non.
Ok, d'accord. Ça, on a gagné du temps. Ouais. Camille.
Moi, oui, je demande que ça. J'adorerais. Ah bon storytelling, dire bon, en fait, on s'est connus à 15 ans et puis ensuite la vie, chacun a fait sa vie, puis on s'est retrouvés à. Bah là, maintenant, là. Demain.
Bruno ?
Non, moi non plus. Non, je me dis que je sais pas, on a évolué de manière trop différente. Tu vois. Il y a juste en les deux personnes complètement différentes qui ça a marché à un moment donné, mais maintenant je pense pas.
On est tellement de milliards sur la planète.
Oui, autant connaître d'autres choses, quoi. Tu vois.
Yeah. Au-delà.
Moi, je garde des liens très forts avec.
Il parle le monsieur avec.
Oui, c'est ça. J'étais en train de me livrer, je n'ai plus envie. Non, je garde des liens très forts avec.
Avec tes premières amours.
Ouais, voilà.
C'est fou.
Ah ouais. D'ailleurs, ils m'ont appelé.
Ça reste platonique, mais c'est très joli.
Oui, mais ça dit pas si tu reviens avec. Non, non, garder un lien, c'est pas la question.
Non, mais ça reste très fort, mais c'est platonique, mais c'est très joli.
Tanguy.
Non, j'aurais peur de lire la déception dans le regard des gens, je pense, parce que on a tous
tendance à prendre les choses.
Bah voilà, bien sûr, bah oui, évidemment. Mais j'en ai conscience, donc tout va bien.
Daniel,
moi, elles sont toutes mortes. je veux bien essayer des nouveaux trucs. Elles sont toutes décédées.
Elles étaient déjà mortes quand on les a rencontrées. C'est ce qu'il dit.
Il y en a certaines.
Oh non,
je
viens de comprendre.
Oui, bah oui.
Non, c'est dégueulasse.
Ah, t'as compris.
Oui, non, elles étaient déjà mortes. Oui, je viens de comprendre.
Ouais. Et toi, Nagui.
Alors moi, ça m'est arrivé. Et c'est très gênant. Ouais. De recevoir une lettre d'une histoire d'amour passée et une déclaration d'amour avec on a eu tort, on s'est séparé
jusqu'au bout
de l'aventure. On s'est séparé, machin.
Je t'ai vu à la télé.
Ouais. C'est quand elle a vu que t'avais percé. C'est parce que t'as percé, c'est pour ça.
J'ai vu ta maison.
Je suis passée dedans.
J'ai vu ta bagnole.
Et je me vois mort dedans.
Et ça m'a fait peur. Et ça m'a fait très peur. Lucas Bravo, des histoires passées qui reviendraient, c'est possible ou pas?
Moi, je reste toujours profondément amoureux de toutes les personnes qui ont partagé ma vie. Je trouve ça très bizarre d'avoir un lien tellement fort et de se connaître, de s'envisager juste en un regard. Et puis
genre
après...
jamais aucun clash, jamais plus le côté plus jamais ça justement. Je suis tombé sur une folle ou un fou et je veux pas y retourner.
Non, j'ai l'impression que j'ai eu la chance de toujours me séparer en plutôt bon terme. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'ai revu quelqu'un, j'ai remis le couvert pour être cru 10 ans plus tard avec un de mes premiers amours. Ça n'a pas duré, mais c'était assez intéressant de se retrouver, de voir comment on avait évolué, les trajectoires qu'on avait prises. C'est assez...
Parce que c'est un peu quand même... Alors, Nicolas, cette série, je vais y arriver.
Mais moi, je ne devrais pas répondre à ça.
Si, justement.
On ne m'a jamais aimé.
Mais je... Ça, on peut le comprendre. Ça. Mais...
Il ne le pensait pas. Mais je
voulais dire que ces saisons ne sont pas autobiographiques, justement. C'est ça que je voulais souligner. Ça peut l'être peut-être pour Hélène, qui a été à l'initiative de ce projet. Mais vous, seriez-vous capable de retrouver des histoires d'amour passé?
Oui, parce que je suis un peu un mélancolique Et la mélancolie, c'est la nostalgie du chant du pays perdu. Ouais. Même si on n'a pas connu ce pays.
Mais de dîner ensemble, par exemple.
Et juste ça, voilà. Tais-toi avec ta mélancolie, là.
C'est de poésie. C'est
dîner, on va remettre le couvert. Enfin, on peut être simple.
D'où l'expression, on remet le couvert, c'est ça.
Moi, je suis content que vous soyez là.
C'est ce que je voulais dire.
C'est vrai.
Moi, je suis content. Oui.
Les saisons, cette série donc, a été créée par Hélène Duchâteau. Elle a co-signé avec vous, Nicolas, l'histoire.
Film, hein.
Et vous réalisez... Ouais, parce que c'est quand même une... je ne sais pas si c'est tourné en pellicule, mais en tout cas, il y a un grain dans cette image. Sur les 30 années de 91 à 2001, ce spectre-là, avec une rencontre plutôt étonnante, la première fois que cette jeune fille voit ces deux garçons en train de faire pipi, il n'y a pas d'autre terme, sur la jetée, sur sa propre planche, ouais. Ouais, c'est vrai. Et elle va tomber amoureuse de l'un des deux, c'est justement ce que l'on vit pendant ces 30 ans, et avec beaucoup d'émotions, y compris dans la maison familiale, y compris dans ce décor, y compris avec des rancœurs, des doutes qui viennent animer, mais beaucoup de complicité, beaucoup d'amour avec les enfants et aussi la maman qui vieillit avec tous les personnages, d'ailleurs vieillissent au fur et à mesure, et c'est même extrêmement touchant. On en parle jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Hold de la fan de Nicolas Maury et Lucas, bravo. Oui.
Vous allez en faire fou les enfants. Ouais, je suis fan de Nicolas Maury, comédien, réalisateur et chanteur aussi. On est heureux à chaque fois où l'on voit 10%, sauf quand 10% c'est mon état de forme du moment. Je suis fan de Lucas Bravo. Votre carrière est sublime et j'ai qu'un seul mot.
Non.
Lucas,
non.
On a commencé tous deux comme mannequins, mais bon, vous, vraiment, moi j'aurais pu si on acceptait les gens différents. Et vous êtes ici ensemble pour les saisons.
Saison.
Un triptyque amoureux, une fille et deux garçons.
Garçon.
Un peu comme Nagui à Daniel avec Leïla. Bon, la seule différence, c'est qu'elle, elle les aime pas. Disait qu'un couple à trois, en vrai, ça passe. Même à 15, si dans les douches de la prison, il y a de la place. En revanche, là, c'est chaud, car l'histoire se passe en Vendée. Et les mœurs sont plus strictes, bien sûr, sauf chez les Devilliers.
C'est clair. Merci.
Celle Marie, l'ami, toujours s'adore. Mais il y a une douleur. Leur amour, Camille, qui les aime fort, a du mal choisir son cœur. Oh, 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 triptyque pour les hommes. Oh, 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 triptyque pour la femme. Un triptyque pas de vin. Oh, 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 triptyque c'est le drame. Oh, dommage, je pense que la série sera pas prise au César, tout simplement parce qu'il n'y a pas de série au César. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec, je vous entends,
la bande originale.
Ouh, 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 ouh. Hold up.
Hold de Lève sur scène à Paris aux Folies Bergères le 1er avril prochain.
Les saisons, évidemment, ce sont quatre épisodes qui suivent l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Et pourtant, ça ne peut pas se résumer simplement à ce côté très météo, j'ai envie de dire, Nicolas. Pourquoi avoir pris l'idée des saisons à part avoir quatre moments, quatre périodes sur les 30 ans?
Parce que c'est... Moi, j'arrive assez bien, je crois, à écrire les relations entre les hommes sentimentales, hommes-femmes, etc. Ou les humiliations, ou les ruptures. Mais j'arrive un peu moins à écrire ce que c'est que le plus grand, c'est-à-dire le social, le sociétal, la France. Donc, c'était aussi comme quatre films d'histoire. C'est pour ça que je vous rejoins quand vous dites que c'est un peu un film. Parce que, pour moi, c'est un peu quatre films. Et ça me permettait de voir que 91, 2001, 2010, 2022, en fait, on n'aime pas pareil, je crois. Moi qui pensais être un romantique et être très 19e siècle, en fait, je suis bien d'aujourd'hui. Et je pense qu'on est agi, même dans nos relations d'amour, par l'époque qu'on vit.
On n'aime pas pareil, y compris avec l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a des images aussi qui nous replongent dans des situations où on a peut-être besoin de plus d'amour, où on est plus léger, ou inversement.
Et puis, par exemple, 2001, l'arrivée de nos meilleurs ennemis, que sont ces surfaces planes, là, les téléphones,
portables.
Les portables, avec avec les applis, etc. Je pense qu'on voilà, on est vraiment agi et secoué dans nos et tant mieux. Dans
et les attentats de 2001 aussi, oui. Qui étaient oui. devant d'actualité.
Qui 2010, pouvaient... qui, ouais. ce qui est aussi pour moi une façon de parler de cette inquiétude écologique avec la tempête Xynthia ouais. dans ce même endroit de la France, mais ce début d'inquiétude qui était déjà trop tard. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis 2022, c'était aussi pour se rapprocher avec les mêmes personnages, avec cette même histoire d'amour, de qu'est-ce que c'est, nous, réalisateurs, nous employons souvent à filmer le now, quoi, le présent. Et donc, ça me permettait d'arriver tout proche de maintenant, de qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Voilà. Cette histoire sur le temps, cette histoire d'amour, alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller pour ne pas spoiler l'une des saisons, en l'occurrence le printemps qui clôt cette série. Mais en tout cas, c'est une jeune fille, une adolescente qui rencontre deux adolescents sur une plage. Elle tombe amoureuse de l'un des deux. On la retrouve quelques années plus tard. Mais elle va se marier avec l'un des deux et l'autre sera, est-ce qu'on peut le dire, ou pas,
oui, bien
son
sûr.
Amant. Parce que c'est une sorte de Jules et Jim des temps modernes que vous avez reconstitué, Lucas Bravo. Vous l'avez vécu comme ça, comme une histoire... c'est pas vraiment de l'amour à trois, parce que la formule est un peu trop... c'est un raccourci. Oui. Elle est ballottée, elle aime sincèrement les deux hommes.
Mais de même que les deux hommes s'aiment aussi. Enfin, oui. Il y a un amour très beau entre les hommes.
Oui, bien vu, il y a quelque chose de sous-jacent avec les garçons aussi. Et c'était incroyable à vivre, parce qu'on est, quand on est sous le regard de Nicolas, on rentre vraiment dans une bulle, dans un univers, et on était en Vendée, comme ça, au début de l'hiver, et on est rentré vraiment dans une sorte de mélodie, on a tous accordé nos instruments à Nicolas, et puis c'est devenu, moi je me suis laissé vraiment bercer par cette histoire.
Je ne peux pas faire autrement que...
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, oui. On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés.
C'est vraiment Jules et Jim.
Oui, c'est
même, même si c'est pas exactement évidemment les mêmes caractères, c'est pas une adaptation, mais on est dans ce schéma-là.
Moi, j'avoue que j'ai voulu, quand je suis rentrée dans l'écriture, je trouvais que c'est une femme qui a écrit ça, et j'aime beaucoup les écritures de femmes, etc.
Hélène
du Château. Mais c'était un peu, je suis une femme, et entre les deux, mon cœur balance, et je me suis dit, tiens, dans une fiction aujourd'hui, s'il y avait un homme et deux femmes, et qui disait entre les deux, mon cœur balance aussi, ça se passerait pas. Donc je pense, dans cette égalité des représentations masculines ou féminines, il faut aussi réélaborer l'endroit du désir. Et moi, je me suis servi, j'avoue, de ce personnage de Camille pour être au milieu du désir et regarder les hommes. Les hommes hétérosexuels. Sans homoérotisme, je préfère le dire, puisqu'on pourrait croire que... Mais je peux le faire par ailleurs, évidemment, puisque je suis... je crois être un peu homosexuel. C'est quand même bizarre.
On en parlera plus tard. On en parlera plus tard.
Mais non, ce que je voulais dire par là,
il
c'est
a fait une chanson pour toi, Bouchou.
Je suis pédé. Mais vous ne rigolez jamais en face. C'est ça qui est génial.
Ils sont petits. Ce sont
des hologrammes.
Ils sont très impressionnés. C'est la première fois qu'ils
viennent. En fait, c'est un bulle par l'IA.
Non, ils sont tout mignons. Regarde.
Non, mais voilà. Non, c'est juste que je trouve qu'il faut. Voilà, il faut réoxygéner, réoxygéner la présence masculine au cinéma.
Oui, mais il y a des histoires d'amour. Alors, on parle de. Alors, je ne veux pas dire ambiguïté, parce que c'est une histoire d'amour entre les garçons, mais comme l'amitié est une histoire d'amour.
Oui, et comme c'est là. C'est pire
et pareil,
que ça.
Et pareil pour les filles aussi, parce que les deux filles aussi s'aiment.
Mais l'amour n'est jamais ambigu.
Je sais plus le nom de l'autre personnage, pardon. Je vais la retrouver. Il y a Camille et Suzanne, c'est ça ? Non, pardon, Suzanne, c'est la maman. Jenny
et Camille, oui.
Ah, c'est ça, qui sont deux copines. Là aussi, il y a une ambiguïté dans leur
non, il y a des torrents d'amour. Je sais pas. Je vous souhaite, Nagui, d'avoir des torrents d'amour. Mais hors couple, enfin je veux dire...
C'est une proposition.
Bon, écoutez, je vais le dire, voilà, j'avais fait une interview pour Elle Magazine.
Allez, vas-y.
Voilà, et on m'avait dit, c'est qui votre fantasme inavouable ? J'avais dit Nagui.
Oh, on avait dit que c'était inavouable. On avait dit que c'était inavouable.
Je me sens gênée de vous rencontrer en vrai.
Bon, mais est-ce maintenant.
Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? La question, elle est là.
Mais dis donc.
Quoi ? Moi, ça m'intéresse.
Encore plus inavouable.
Voilà.
On les amis, on va y aller.
Il est tout rouge, parce qu'il n'y a pas souvent.
Je me suis frippé, mais ça a vu abaisser. Donc, comme ça. Oui, avec, là aussi, il fallait trouver les personnages qui allaient incarner cette histoire. Parce qu'il fallait que ce soit crédible. Que ces couples-là soient crédibles, que cette amitié soit crédible. Le casting a commencé dans quel ordre ? Comment vous avez constitué le triptyque ?
Tout d'abord, j'ai rencontré Lucas au sommet d'une montagne et je pensais pas être à la montagne.
Lequel des deux était, lequel des deux était en larmes?
C'était métaphorique moi ou la montagne? J'ai pas compris.
Vous étiez en larmes, oui. C'est ça?
Non, c'est, j'étais au sommet d'une montagne, c'était pour une maison de vêtements.
Reste là, c'est tout. C'est voilà. Tout ce qu'il y a à savoir. Voilà, on était au sommet d'une montagne.
Et vous êtes rencontrés.
Et non, voilà, et sur un pleuré. Télésiège.
Et pourquoi vous étiez en larmes, Nicolas, pardon?
Parce qu'on m'a mis dans un télésiège et j'avais pas compris qu'on allait dans un télésiège et j'ai le vertige. Et tout le monde me disait baisse la barre, baisse la barre. Et moi j'étais comme un chat dans l'eau. Et donc j'ai pas réussi à baisser la barre.
Tétanisé.
Et je suis arrivée dans un chalet où il y avait une bande d'hommes de 60 ans qui disaient en nous accueillant.
C'est un chant de Noël, hein, by the way.
Des cols roulés en cachemire de cette maison.
Mais j'ai le droit de chanter si je veux.
Et donc, tout été, il y avait aussi Mads Mikkelsen et James Blake, des gens incroyables.
Oh, wow.
Et Lucas Bravo. Non, et je me disais, tiens, ce mec, je le déteste parce que je suis sûr qu'il me déteste. Enfin, bref. Et en fait, je l'ai adoré. J'ai eu une espèce d'invasion. J'ai cru qu'on est devenus deux bébés labrador. Et on n'arrêtait pas de faire des jeux comme ça. Et puis après, au moment.
Qui envoyait la balle, c'est moi qui ça.
Quelqu'un d'autre, l'histoire à trois, quoi.
Ouais, oui, c'est ça, la fameuse.
Donc voilà.
Comment
c'était d'abord Lucas.
Abraham, comment vous l'avez cassé?
Alors lui, c'est bizarre, mais je vais raconter la vérité, puisque c'est ça qui est intéressant. J'étais dans une soirée, et puis il y avait une fille qui était amoureuse de lui. Je savais pas qu'il était acteur. J'ai dit, mais t'es amoureuse de ça, mais il est torse nu sur une enceinte avec ses cheveux, il se prend pour le Christ et tout. Bref. Une semaine après, dans ce même endroit, il arrive. Et il m'embrasse sur la bouche. Bon, voilà, je le connais pas. Et je me suis dit, waouh, ça se fait pas et tout, j'ai porté plainte. Non, c'est pas vrai. et du coup, après, j'étais en casting et il y a quelqu'un qui me montre, enfin, la directrice de casting que je salue, Constance de Montois, et qui me montre des essais. Et lui, Abraham, il donne les essais. Et là, je deviens rouge tomate et ma directrice de casting et la productrice disent, il y a un problème. Je dis, lui, il m'a embrassé.
Et vous ne saviez pas qu'il était acteur, hein,
non.
Wappler.
Et après, je l'ai vu.
C'est un conseil hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez réussir dans le cinéma,
embrassez le réalisateur avant qu'il ne voit les essais. Voilà.
Non, j'aime bien les gens qui me dérangent comme ça.
C'était le cas fait, aussi avec.
Sauf si t'es un réhabitant, quoi. Yeah.
Voilà. Et Camille, alors le personnage de Camille, Suzanne Kayan, là aussi, ça a mal commencé.
Oui, Stéphane Caillard. Ah oui, je dois vraiment tout raconter.
Ouais, oui.
Oui, parce que je la trouvais un peu raidasse et elle me trouvait un peu raidasse aussi.
Elle a incarné Florence Artaud dans un film.
Ouais.
On a parlé
elle est superbe cette comédienne.
Elle est superbe, Stéphane. Ouais. Et voilà, j'avais besoin de cette actrice incroyable.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est très très mal passé au début. Et puis après, assez rapidement, on a bu beaucoup de vin blanc.
Avec modération, évidemment.
Avec modération.
Beaucoup avec modération.
Merci. Virgin vin blanc.
Très bien, j'aime beaucoup ça. On va la garder. Cette série créée par Hélène Duchâteau, donc co-signée par Nicolas Maury et Hélène. Nicolas, on a réalisé ces quatre films, ces quatre épisodes, ces quatre saisons portées par Lucas Bravo, Abraham Wappler donc, et Stéphane Caillard. C'est touchant, c'est émouvant de voir comment ces couples se construisent, se déconstruisent, comment ils renforcent leur amour par un mariage, mais qui n'est finalement qu'un contrat, comment il y a des coups de canif qui peuvent être donnés dans ces histoires, et comment finalement se mentir à soi aussi. Parce que c'est ça, au fur et à mesure du temps, il y a quelques mensonges qui vont exister, et puis des secrets aussi.
Et c'est sûr, bravo, et c'est surtout aussi se choisir soi-même. Ça fait un peu banalito ce que je dis, mais quand même, je crois que le choix, choisit-on vraiment? Et ce qui est assez beau, c'est que c'est quand même quelqu'un qui veut écrire le roman de sa vie, Camille, et puis à la fin, elle regarde ces deux hommes dans cette maison qu'ils vont laisser, à une autre habitante. Et
la maison de famille.
La maison de là famille, aussi, parce que ça aussi, c'est un des personnages principaux, cette exactement. Maison, comme chez Colette, ou c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé que ce sont les maisons qui nous habitaient. Pas
Proust aussi, ouais.
Oui,
enfermé
oui,
pendant des années à écrire
les la 14 dernières années de sa vie, de 1908 à 1922, soyez précis.
Des chiffres, monsieur, des chiffres.
J'ai un truc de chroniqueur.
L'intégralité est déjà disponible sur arte.tv. C'est important que ce soit sur Arte aussi, parce qu'on est dans un tempo et dans une beauté qu'Arte peut se permettre, ce qui ne serait peut-être pas le cas d'une plateforme.
C'était mon désir le plus cher, et puis quand j'ai rencontré la productrice, j'ai dit c'est Arte ou rien. Puisque je savais qu'il n'allait pas me demander de disparaître en tant que réalisateur-auteur, c'est un peu présentieux, mais bon, c'est comme ça, mais qu'ils allaient au contraire contraire me demander d'apparaître tout le temps. Parce que c'est ce qui fait quand même la différence. Aujourd'hui, bon, il y a des tâcherons de la mise en scène qui voilà, c'est un peu le modèle des États-Unis pour les séries où de toute façon, le nom du metteur en scène est complètement délavé. Mais bon, moi, j'ai essayé de faire autrement. Mais je me sens pas réalisateur non plus. Je me sens, je sais pas, quand je regarde les acteurs, une table, une plante. Mais par contre, je voudrais juste parler de Lucas Bravo. C'est possible?
Non, c'est moi qui vais le faire. Lucas, quand vous passez d'une série mondialement connue comme Emily in Paris à cette série des saisons, on a deux spectres totalement différents, sûrement deux demandes extrêmement différentes aussi dans votre manière de jouer, d'interpréter, et où on a l'impression que c'est l'extérieur qui compte dans Emily in Paris, alors que là c'est plutôt l'introspection et ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de scènes que vous avez où vous êtes totalement bouleversant en n'exprimant aucun autre sentiment qu'un regard, qu'un sourire et quelques larmes. C'est la différence du travail de Nicolas Maury et des Américains ?
Oui, c'est vraiment le réalisateur qui apporte sa signature. Mmh. Nicolas, il est venu me chercher. Je dis souvent, j'ai l'impression qu'il m'a rencontré avant que je me rencontre. Je suis arrivé sur le tournage, je m'attendais pas du tout à la transformation qui allait s'opérer. Et il m'a permis beaucoup de choses. C'est vrai que sur les gros formats américains comme ça, c'est un peu l'usine. Donc, on peut pas changer le texte, on peut pas changer de mouvement, on peut pas apporter beaucoup de propositions.
Est-ce qu'on peut décider de la manière dont on joue le personnage?
Non. Même de la tonalité, de tout. Il y a une idée précise, il faut la suivre, il y a une recette, il faut pas trop la changer. Et c'est vrai que Nicolas, il m'a vraiment permis d'atterrir en moi, d'avoir des gestes de vie,
Est-ce que vous êtes allé chercher un jeu que vous ne soupçonniez pas chez vous?
Je pense que je soupçonnais une certaine mélancolie, une certaine cassure, et lui m'a autorisé vraiment. Il m'a dit, c'est ça qu'on a besoin de voir. On a besoin de voir plus d'hommes comme ça, de permettre aux hommes d'être complètement brisés. Et en fait, c'est devenu thérapeutique. Ça me fait du bien. Ces scènes comme ça où je me suis rendu compte que vraiment, juste avec un regard, juste en habitant cette tristesse et cette cassure, ça véhiculait quelque chose, ça m'a fait un bien fou et j'ai complètement plongé dans
nous aussi, puis en très peu de temps, Valmont d'ailleurs, vous avez un regard de serpent,
prédateur.
Ouais, c'est ça, de vipère. Quelque part, non, vous êtes le méchant, finalement, le salaud, oui, où en un regard.
Il y a un moment, il sera sympa avec vous.
Ça vient tout de suite.
Oui, on va vous insulter. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Non, et puis après, les larmes, c'est-à-dire qu'on a juste envie, un peu à l'image de votre rencontre là-haut sur la montagne, de vous prendre dans les bras et de dire, faut pas pleurer, quoi. On peut comprendre l'émotion qui vous fait déborder, mais c'est absolument bouleversant. Et je le dis encore une fois, nous, entre Emily in Paris, Valmont qui s'appelle pas Merteuil, Valmont,
Merteuil,
mais vous incarnez Valmont, et de l'autre côté, si
non,
Cherco.
Non, pardon,
c'est...
mais je prends. Hein.
C'est
Vincent Lacoste
qui fait Valmont. Ouais, voilà. Non, lui, Lucas Bravo joue le méchant dans cette histoire, le prédateur. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on se demande si c'est pas lui qui est ballotté justement et l'objet des délires ou de la méchanceté. Ça sera à vous de choisir, mais en tout cas, ça va réveiller beaucoup de choses en vous, extrêmement agréable, extrêmement délicate.
Je tournais.
Plus jamais vous m'interrompez quand je parle. Je dois regarder le début, hein, tant que j'ai pas fini.
Non mais arrête. En plus il a peur d'un coup, ce sera le but.
Non mais il plaisante comme moi.
On se connaît depuis très longtemps.
Oui, bien, trop longtemps, bon, c'est voilà, ça que j'ai trop longtemps.
C'est pour ça qu'il faut répondre, faut y aller.
S'il y a bien un mec qui peut se remettre un truc autour de cette table, c'est toi.
Ce qui est très, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce que vous disiez, je sais pas si elle attend que vous voyez.
Ouais, on se vous voit.
Ce que vous disiez par rapport aux saisons et à Gercourt, c'est que
le comte de Gercourt.
C'est que je tournais les deux en même temps et d'un jour à l'autre, je devais switcher entre le sociopathe pervers et retourner dans cet homme brisé. C'était vraiment une fin d'année assez particulière en termes de bipolarité.
Parfait. Les saisons donc sur Arte. Tout de suite, voici Bruno Pecky. Parce que vous n'auriez pas écrit une histoire d'amour à trois comme ça, vous.
Oula, non, alors pas du tout. Déjà, quelle idée de faire un film qui se passe sur 30 ans.
au Sable d'Olonne. La ville où l'activité la plus connue, c'est quoi ? Partir. Ah oui, c'est là que part le Vendée Globe, quoi. Oui. Des gens qui préfèrent partir tout seul sur un bateau pour faire le tour du monde et risquer de crever plutôt que de rester au Sable d'Olonne. Non, et puis pour Luca Bravo, quoi. Après, Emily in Paris, voilà Camille in Seine-d'Olonnaise. J'aime pas cette ville, un nom en anglais. Non, mais Nicolas et Lucas, pensez à votre carrière un peu. 10% pour l'un, Emily in Paris pour l'autre. Maintenant, c'est quoi ? Les Sables d'Olonne, quoi. Tu sens qu'on est passé de Netflix à Arte, hein. Et je vais pas vous porter la poisse, mais normalement, c'est dans l'autre sens, les gars, quoi. On a déjà hâte de vous recevoir pour votre prochain grand projet qui sera un court-métrage d'un étudiant en cinéma. Alors après, Nicolas Maury, ça nous fait pas peur, hein. Rien ne vous fait peur, d'ailleurs. La preuve avec votre rencontre avec Lucas Bravo, vous l'avez raconté, mais je vous cite, littéralement, vous avez dit, j'ai rencontré Lucas en haut d'une montagne en Italie. Je suis arrivé en haut de la montagne, j'ai eu le vertige et je me suis mis à pleurer. Mais pauvre Nico, quoi. Vous rendez compte ? Le mec va faire de l'alpinisme dans un autre pays, hein, pour se changer les idées du boulot et des tournages et arriver en haut. Coucou Nico, moi c'est Lucas, j'adorerais jouer dans ta série. C'est pas une coïncidence, c'est un stalker en fait. Bon, pour revenir à la série, elle raconte, on l'a dit, des relations amicales et amoureuses à 10 ans d'intervalle au fil de 4 saisons et chaque épisode a sa saison. Bon, au moins c'était le dernier moment pour la faire. Avec le réchauffement climatique, dans 10 ans, la série, elle aurait eu 2 épisodes, quoi. Niveau 4 saisons, il restera que Vivaldi et les pizzas, quoi. D'ailleurs, super idée le titre, hein, pour bien compliquer les discussions, quoi. Chez Arte, ils doivent vous détester. Alors, on va commencer par une saison des saisons sur 4 saisons. Si ça marche bien, il y aura une deuxième saison des saisons, quoi. Dans les bureaux d'Arte, ils sont dans le même état que Nicolas Maury en d'une montagne, hein. Il n'y a pas que le titre que j'aurais fait différemment. Moi, j'aurais rien fait sur un triangle amoureux.
Voilà. Ah bon ?
Trois, mais non, c'est le pire chiffre, trois. Troisième Reich, troisième guerre mondiale, troisième sexe. Bon, pas le meilleur album d'Indochine. La ville de Troyes. D'ailleurs, comment on appelle un plan à trois ? À trois. Un plan à neuf ?
Ah, joli.
Bon, il va avoir quelques notions de mathématiques. Hein. De là, je t'explique pendant les infos.
Un plan cube.
En plus, dans votre série, c'est pas exactement un triangle amoureux, car il y a aussi la copine du personnage de Martin, mais qu'on voit moins. C'est donc un plan à pi. 3,14. Bon, Olaf, on va peut-être aller manger ensemble après. Faut qu'on prenne le temps que je t'explique tout ça. Non, en fait, ce que j'aurais vraiment fait différemment, ce sont les acteurs. Je suis désolé, mais on les suit sur 30 ans. Et donc, à chaque épisode, ils sont censés avoir pris 10 piges.
Ouais.
Sauf qu'ils sont toujours magnifiques. Mais non, mais les deux mecs, ils ont toujours autant de cheveux, quoi. Pour y croire, il aurait fallu commencer avec moi. Et dans le dernier épisode, finir avec Daniel Morin. Là, on voit le temps qui
c'est
passe.
Crédible, là.
Bah oui. Ah bah alors c'est vrai, il y a quelques petits cheveux blancs, mais pas une seule calvitie, quoi. C'est pour vivre comme ça, j'achète, hein. Et 30 ans qui passent sans prendre de coup de vue, le seul qui trouve ça réaliste, c'est Nagui, quoi. Bah quoi, je vois pas le problème. Ah, moi, faut que je me confie, moi, devenir chauve, ça me fait super peur, quoi. J'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit, je pense qu'en tant qu'homme, voilà, ça traduit une peur de vieillir et de plus correspondre aux critères de beauté que la société m'impose, mais bon, tu dois pas comprendre ce que c'est, hein, t'es une femme. Elle a été gentille, elle m'a rassuré, je lui ai demandé s'il y avait des chauves qu'elle trouvait beaux, elle m'a dit oui. Et je lui ai demandé lesquels, elle m'a dit oui. En vrai, elle m'a dit des noms, elle m'a dit genre Jason Statham, Vin Diesel, The Rock. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont pas que chauves, quoi, ces mecs-là. Non, mais j'ai testé, hein. Je lui ai montré des photos d'autres chauves. Elle a pas autant kiffé Edouard Philippe. Hein. Bref, pour revenir à la série, elle parle surtout du temps qui passe et on se pose forcément cette question, où serai-je dans 10 ans ? Et on peut pas le savoir, hein. Par contre, on sait où on était il y a 10 ans. Lucas, il y a 10 ans, vous veniez de jouer dans le film La Crème de la Crème de Kim Chapiron, qui vous a dit lors du premier jour de tournage, tu colles trop bien avec le rôle, t'as une vraie tête d'enculé. Et bah, ça doit être un magnifique souvenir, ça, Lucas. Nicolas, vous, il y a 10 ans, vous faisiez évidemment 10%, hein, et vous a même proposé à l'époque de faire un one-man show, mais vous avez refusé car, je cite, le rire est devenu un peu bourgeois et de droite. Alors que pas du tout, regardez Daniel Morin. Un vrai altermondialiste marxiste déconstruit. Mais bref, assez parlé du passé, concentrons-nous sur le présent. Et la seule chose à faire, c'est d'aller regarder la série Les Saisons.
Yes.
Sauf si vous êtes au Sable d'Olonne, là il faut juste partir.
Merci. Bravo.
Cette chose-là, il faut que tu te vis. Mon premier, c'est plaisir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir.
Ça décline un peu aussi les paroles. Désir, plaisir, souffrir. Il manquerait peut-être une quatrième saison dans cette histoire, mais c'est ce qui vous a donné envie de prendre cette chanson, parce qu'elle est bien choisie. Mais...
Oui, parce que je sais pas, c'est la vertu de ce genre de chanson. Ça parle d'une chose infiniment petite et ça parle à tout le monde. Ouais.
Et puis surtout, vous la faites pas simplement entendre, en fait. Ouais, vous la mettez en scène.
Ah, c'est beau,
c'est très beau. Ouais. C'est très beau parce que c'est pas juste comme ça, décoratif ou pour souligner éventuellement une situation. C'est interprété, en fait.
Ouais.
Et la musique du film, Adrien Gallo.
Oui.
Très belle musique.
Ouais.
Alors on va préciser une chose, c'est que dans les premiers épisodes, le premier épisode, vous n'y êtes pas, Lucas, c'est Félix Nobel qui joue votre personnage d'Alexandre, et pareil pour Abraham Wepler, c'est Johan Brezo qui l'interprète, et Marisol Fertard joue le rôle de Camille, puisqu'on est vraiment dans l'enfance, la jeune adolescence, et que c'est seulement plus tard que les personnages sont incarnés par Stéphane Caillard, Abraham Wepler et Lucas Bravo. Lucas est notre invité, Nicolas Maury aussi, jusqu'à midi et demi. Voici Mélodie Fontaine.
Alors voilà, je dois vous l'avouer, je ne suis pas parfaite. Voilà, certains auditeurs ont dû tomber de leur chaise et je m'excuse auprès de tous les types de sols, les moquettes, les parquets, les linos, oui aussi Nagui. J'ai deux vis. Ça va, franchement, non? J'en connais dans cette pièce qui en ont pas que deux, hein? Il y a des coquins ici. Rayon vis, c'est une allée bricolage de Leroy Merlin. Bon. Mon premier vis à moi, c'est une addiction à l'odeur de lessive fraîcheur alpine. Ah, c'est chaud, hein? Sexe pile moins 60% dans les sondages. En fait, c'est parce que j'ai arrêté de l'utiliser, cette lessive. Écologiquement, déjà, c'était une horreur, hein? C'est l'équivalent de laver son linge directement dans un dauphin. Et puis, c'était tellement modifié que ma fille commençait à muter. Et c'est quand même dur de trouver des chaussures pour 12 doigts de pied. Comme des pulls à trois coudes, d'ailleurs. Bon. J'ai tout de même gardé une petite bouteille cachée dans mon placard que je renifle parfois comme du popper senteur alpine. Après, je referme la bouteille et puis je me sens toute sale. C'est glauque, hein. J'ai un autre plaisir coupable aussi, je vous le narre.
Oui.
On dit pas assez narré, je trouve.
Ouais,
ça me
vrai.
Fait le narré. Bon. Certains passent des heures sur des sites à la con. Eh ben, moi aussi. Moi, je crame de la bande passante sur des sites de vente immobilière.
Ah non.
Voilà, c'est mon petit délire. Galvanisée par mon statut de femme blanche urbaine, je regarde quoi? Des études anthropologiques? Non, des maisons de campagne. Je suis une belle connasse, hein. Mais pas trop cher. Attention, 300 000 euros max. Alors quand je suis enfin seule, je prends mon ordi, je ferme les volets, j'allume une bougie. Et quand je suis sûre que personne regarde, je m'assois dans le canapé et puis je mate des belles grosses chaumières. Oh, je me dis, toi, je vais te péter la cloison. Toi, je vais t'agrandir la pièce principale. Certains n'ont pas de toit pour pioncer. Moi, je veux une maison fermée 20 jours sur 30 au bout du Transilien Lignosy qui ne sert qu'à accueillir des amis. Et le summum de la tristesse, c'est que je n'ai pas d'amis. Et pas un radis non plus, alors ça risque pas. Alors si, j'ai des amis du showbiz, mais vous savez ce que c'est. Hein, c'est pas eux qui décrochent quand on a une crise hémorroïdaire à 3 dû et qu'on a besoin de sa crème. Une crème qu'on n'a jamais récupérée, mais qu'on avait d'ailleurs prêtée à quelqu'un du showbiz pour ses soi-disant poches sous les yeux, hein Emma?
Je l'ai passée à Holt, c'est pour ça.
Et allez, je la reverrai jamais. Il va encore me vider tout le tube. Bref, oui, je veux une maison de campagne, c'est un peu le rêve américain du français urbain qui a déjà tout. Toi, tu étais à la campagne, t'entends ça, tu te dis, mais elle est con, elle, ou bien pourquoi elle va pas habiter à la campagne, du coup? Eh ben parce que je l'aime pas tant que ça, la campagne. Je vois juste une cheminée, trois poules, planter trois radis en ayant l'impression d'être connecté à la terre et me faire réveiller le matin par un daim qui broute. Non, il n'y a pas de contrepétrie, cherchez pas, j'ai toujours pas compris le principe de la contrepétrie. Pour moi, c'est inspiré du gaz par l'anus, donc vraiment, ça n'a aucun sens. Mais ne serait-ce qu'une cheminée en pierre avec du feu dedans, ça c'est le YouPorn du Parisien, ça. Enfin, pas YouPorn, c'est fermé. C'est le TubeHate des Parisiens. C'est mon mec qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est vrai. Bref, c'est les pages lingerie du catalogue La Redoute, ça me parle plus. J'adorerais être devant un feu de bois avec ma bougie feu de bois et mon bouquin La guerre du feu de bois. On était dans un magasin à Paris, là, l'autre fois, un magasin de sport. Pourquoi? Je sais pas ce qu'on foutait là. La dernière fois qu'on a fait du sport, il y avait encore Marie-Josée Pérec au guignol de l'info. Bref. Dans le magasin, il y avait une fausse cheminée en plastique et tout le monde hallucinait. C'était l'attraction du magasin. Ça prenait des photos. Il y en a même un qui a tendu ses mains pour les réchauffer. Et je me suis dit, la fin est proche, là. C'est sûr. J'ai l'impression qu'on a un peu déconné en termes d'aménagement urbain. Est-ce qu'on a envie d'avoir partir? Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'avoir resté? Du coup, je retourne à mon placard, je sniffe ma bouteille fraîcheur alpine, chaîne du nez, puis je me dis, quelle chance j'ai.
Yes!
Mélodie Fontaine sur scène. Elle sera à Lyon le 18 mars et à Lille le 10 avril.
Vous êtes bien dans la bande originale. Voici Clara Luciani et Yamé qui font le mur.
C'était que mon feu. Dès que je t'ai vu, j'ai su que ça serait douloureux. La célébrité m'appelle, elle est jalouse, elle est piquée, c'est mort, et va me rendre fou. Entre le sud et la scène, je suis dans le palace, loin de toi et de nous, oui, d'une histoire d'amour. J'aime bien les tests qu'on pourrait être ensemble. C'est dangereux, mais tu me plais. C'est tout autour de finir en cendre. C'est pas sérieux, mais je t'aimerais. C'est sûr, on va prendre le mur. Mais si c'est toi qui conduis la voiture, ça me va bien, ça. Paris, Douala, Rio, LA. Des millions d'écoutes, j'ai même pas une minute pour toi. Dans ma fast life, je peux pas ralentir. Es-tu sûr que tu veux me suivre? Pour le meilleur et pour le pire.
J'aime le sabotage, tu es trop sage. Si tu ne veux rien risquer, tu me perds au passage. Le danger donne de meilleurs baisers que l'ennui.
C'était Le Mur, Clara Luciani et Yamé, dans la bande originale de Nicolas Maury et Lucas Bravo.
Ah bah Le Mur, on se le prend dans la gueule. Et depuis 11h05, Nagui, je te le dis.
Cette histoire des saisons, cette histoire d'amour à trois, mais surtout étalée sur les 30 ans. Est-ce que c'est compliqué de jouer d'ailleurs la durée, au-delà du maquillage, du vieillissement qui a été fait, mais jouer la maturité? Lucas Bravo.
Ah, c'est une bonne question. C'est Nicolas qui nous a vraiment, qui a été chef d'orchestre de ça, qui nous a vraiment amené dans les différentes époques. Je crois pas qu'on ait filmé dans l'ordre d'ailleurs.
Non. Parce que d'une période à l'autre, Nicolas, il y a 10 ans qui donc c'est cool, et donc il y a forcément d'autres histoires qui viennent alimenter, étayer et construire les personnages.
Oui, et j'avoue, enfin, personne n'en parle autour de cette table, mais je joue dedans aussi.
Bah bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Vous êtes un mari.
On n'en parle pas.
C'est moi en hétéro, Nagui.
On n'en parle pas.
Je vous loin,
on n'en parle pas parce qu'on veut pas vous gêner.
Non. C'est de la drague.
Non, oui, vous êtes le papa qui même d'ailleurs autorise son fils à être homosexuel d'ailleurs.
Ouais. Il lui dit, mais ça va, on a compris, t'es pédé, on est de gauche, c'est cool.
C'est ça. Mais lui aussi, il change de coupe de cheveux, de moustache.
Mais ça,
ce sont les accessoires. Moi, je parle du jeu, de la mentalité,
c'est
pas uniquement le maquillage.
C'est difficile à nommer ce que vous demandez, parce que moi, je crois que c'est, en plus, ma thèse, entre guillemets, c'est que le cœur ne vieillit pas. Enfin, j'espère.
Un couple, oui, peut vieillir. Et c'est là, c'est là où ça fonctionne.
Bien sûr. Mais le courage, normalement, le courage qui vient étymologiquement du mot cœur, ne vieillit pas, je crois, chez l'être humain. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Et donc, le courage de se séparer, par exemple, le courage de continuer à aimer malgré les adversités, et puis de pas faire de l'autre sa petite marionnette. Il faut avoir du courage pour ça. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Pardon, parce que. Et puis je voulais pas trop en faire non plus sur les prothèses, les bouts d'escalope de dinde là qu'on met là pour montrer, parce que je trouve que c'est souvent
pour montrer le vieillissement.
Non mais je veux dire c'est souvent un petit peu ridicule. Ouais. de réfléchir à est-ce qu'il justement il a une calvitie ou est-ce qu'il a un goitre. Bon.
Ah ouais, sympa.
mais je crois que.
Waouh. Pardon, hein, on peut être vieux sans avoir tout ce dont vous parlez. Hein.
Vous êtes redressé comme ça.
Bah oui. Attention à ce que rien ne dépasse.
Non, mais je sais pas, c'est une histoire de.
L'histoire de ta vie.
Ok.
Non. Bon, ça tire à balles réelles.
La suite de la phrase demain. On reviendra pour finir cette phrase. Les saisons, c'est sur Arte. On va parler justement de la manière de vivre ou la complexité de vivre des relations à trois, que ce soit en amitié comme en amour, avec Sophie Brown qui sera notre invitée tout à l'heure. Mais la musique, justement, dans cette série, la musique est portée par Adrien Gallo, qui, comme vous, est à la fois acteur et musicien et chanteur. Nicolas Maury, on va évoquer votre carrière et la musique chez vous. On va commencer fin des années 80, vous écoutiez Vanessa Paradis, qui fait un point commun avec Adrien.
Oui.
Pourquoi cette musique?
Ouais, pourquoi?
Parce que Vanessa, c'est ma fée, c'est celle qui m'a fait grandir, voyager dans ma chambre. C'était une personne très clivante à l'époque et pour moi, c'était mon parti politique. Je l'aimais, voilà, et j'ai eu la chance après de jouer avec elle dans un film. C'est fou, Vanessa, pour moi.
Ouais. Et vous découvrez le théâtre à cette époque-là?
Exactement, c'est l'époque du divorce de mes parents. Donc, j'ai 11 ans et j'ai lu une biographie de Jenna Rollands qui est pareil, à 11 ans, ses parents se sont séparés. Donc, c'est cette espèce de cellule qu'on croit rêver. Et tout à coup,
tout s'affaisse, ouais.
Tout s'affaisse. Et puis, voilà, moi, il y avait un petit atelier de théâtre et j'y suis allée.
Dans ces mêmes années 80, fin des années 80, Lucas Bravo.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour.
Choix étrange pour parler de votre naissance. J'aimerais mourir et je ne t'aime plus.
Je sais pas, ce son je l'entendais tourner, ça me rappelle
votre enfance.
Ouais. Ouais, ça me rappelle les débuts à Maul, les débuts de mon père au Paris Saint-Germain. J'entendais cette chanson souvent tournée. Je ne sais pas qui l'écoutait, mais elle me rappelle beaucoup de souvenirs.
Votre père footballeur, Daniel Bravo, votre mère aussi, Eva Bravo.
Footballeuse également.
Footballeuse également.
Avant-centre. Belle amortie poitrine.
Joli.
Pardon, Eva.
Toi, tu peux.
Et vous déménagez donc en vrai. Vous déménagez en vrai d'être transfert de votre père, en fait. Pardon, dépouillez-vous.
Faut que je rebondisse là-dessus.
Ouais, c'est okay. Ça.
Allez-y.
C'est ça. Oui, c'est ça. Fils de footeux, on ne se rend pas compte de la vie que ça implique.
Oui, c'est beaucoup de souvent transféré. Du coup, à chaque fois, il faut se réinventer dans chaque ville. Ça a l'avantage de ses inconvénients, c'est-à-dire que on se sent un peu déraciné. On a vite envie de perdre le statut du nouveau, donc on porte un peu des masques pour se fondre dans les dynamiques de groupe. Mais en même temps, ça permet d'avoir un recul sur les microcosmes et voir ses petits problèmes de tous les jours.
Et grandir avec les cultures étrangères aussi, parce qu'on parle de Nice, on parle de Paris, mais aussi de l'Italie.
Et Parme en Italie, oui. Ouais. Et en plus, on est une éponge. À cet âge-là, j'avais 8 ans, l'italien qui est rentré d'un coup comme ça, sans accent, sans rien. C'est culturellement, c'est super intéressant.
Que vous parlez toujours l'italien, une de vos langues, entre guillemets,
En date, je fais ça.
Ouais, ça marche tellement. On imagine. Ouais.
Ciao, belle.
Ouais, c'est ça.
Ah, on parle couramment.
On sent que vous avez besoin de ça pour séduire. Hein. Il faut trouver ça.
Mais c'est nécessaire.
Ouais, c'est ça. En 2014, Nicolas Maury, vous écoutiez.
Bon, un peu clivant.
Kanye West, quand même, très clivant.
Bah oui, pardon, voilà.
Quoi, pardon?
À l'époque,
je suis un salaud. Et je pense comme lui. Et là, de buzz à fond. J'ai fait les saisons.
Et j'ai fait
les forcé à faire les saisons.
J'étais dans les soirées de Puff Daddy.
Bah alors. Bah, vous croyez quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Regardez.
À cette époque-là, vous êtes dans 10%, Nicolas. Le premier épisode diffusé en prime time a rassemblé quasiment 5 millions de téléspectateurs. C'était complètement énorme. C'était une vague qui arrivait sur la télévision française.
Et il n'y a que 10 ans.
Vous incarniez le seul personnage aussi gay à heure de grande écoute à la télévision, et ça, c'est pas rien.
Ça, c'est pas rien avec Camille Cotin. Ouais. Nous étions quand même les pionniers.
C'est-à-dire aussi gay.
comment ça?
Ok. Ah, je l'ai compris différemment.
Ah,
bon,
non, oui, non, pas aussi gay. Non, gay.
Ah, d'accord, ok. Okay.
Tellement gay.
So gay. Gay.
En fait, je suis de moins en moins gay, ça me fait peur. Je vous assure, j'ai un hétéro qui pousse tout le temps, tous les jours. Et non, oui, c'était fou. Et surtout, ce qui est fou, souvent, bon, les acteurs en font, ou actrices, mais acteurs, en font beaucoup sur l'implication, l'engagement, etc. Je trouve qu'il y a un engagement qui est le plus beau, c'est d'autoriser les autres à être ce qu'ils veulent, en fait, ce qu'ils peuvent, et sans prérequis, sans injonction. Mais quand vous avez des enfants de 14 ans qui vous écrivent de Brésil, Bangladesh, etc., et qui vous disent, grâce à vous, mon papa, qui adore la série, m'a dit, arrête de faire ton Hervé à table, en rigolant, et que ça fout un peu les frissons, parce que, voilà, tout à coup, cette représentation-là, cette je dirais même cette présentation de, ouais. d'un personnage comme Hervé, qui est un peu, voilà, qui pousse un peu les lignes, voilà, ça aide les autres, et ça j'en suis très fière.
On va rendre à Clara Scheller aussi son existence, parce que c'était quelques années avant, dans Clara Scheller.
Arrêtez de me minimiser, Nagui.
Et où il y avait justement une histoire d'amour à trois, dont on va parler dans quelques instants. Lucas Bravo, vous écoutiez-vous dans ces années 14, 2014 À quel moment vous écoutez la musique d'ailleurs ? C'est pour vous mettre dans la peau d'un personnage ou juste pour le plaisir d'avoir des écouteurs et
Je le fais je vais beaucoup marcher quand j'ai rien à faire. Okay. Je vais beaucoup marcher dans la rue avec des sons que j'adore. Je trouve qu'il n'y a rien de plus thérapeutique.
Et vous avez une BO par rôle que vous incarnez ?
Oui. À chaque personnage, je crée des bulles de sensations avec playlist, parfum et un animal pour la physicalité.
Playlist, parfum et animal ?
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, de créer des bulles de sensations, en fait, ça permet de revenir à des personnages facilement. Pendant que je travaille, j'écoute, comme vous savez, comme les sens, parfois goûter quelque chose, sentir, ça nous ramène à des souvenirs d'enfance. Quand je pré-travaille un script, j'ai un parfum pour chaque personnage, je crée une playlist, et pendant que je travaille, je suis dans ces sens-là.
Donc entre deux rôles quand vous passiez de
et spécialement pour ça ouais
du comte méchant de Mertheil aux saisons vous changez de parfum
ouais exactement d'accord j'ai écouté la playlist
et là on en arrive à Kim Chapiron et à ce à ce compliment révélé par Bruno
c'était un compliment pour lui hein.
Oui bah ouais j'imagine
vous veniez de enfin vous arrivez au casting c'est ce qu'il vous dit ou
Non, c'était on venait de tourner et je le recroise plus tard. Il me dit ça y est, j'ai vu les images, c'est génial. On aurait envie de faire un film que sur toi. T'es une vraie tête d'enculé. Merci.
Je prends. Sophie Brown nous a rejoint. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Nous parlons de l'amour à trois dans les saisons. L'amour à trois, c'est l'idéal ou c'est l'enfer?
C'est l'amour à deux.
Je n'ai qu'une question.
Elle a craqué.
C'est-à-dire que c'est vraiment la question profonde de l'être humain. Je trouve que l'amour à deux, c'est déjà pas très facile.
Ouais, c'est sûr.
Alors, l'amour à trois, je pense que c'est pas ou plus difficile ou plus facile. Ça pose d'autres questions. Ce que j'ai trouvé très joli dans cette série, mais aussi d'une façon générale sur ces questions, c'est qu'en fait, ça nous interroge sur ce qu'on vit. Et c'est vraiment le plaisir de notre époque, c'est de nous poser des questions sur ce qu'on vit qui nous semblait si évident avant et qui en fait ne l'était pas. C'est-à-dire le couple qui va durer toute la vie, qui n'a jamais fonctionné en fait, parce que la monogamie, en réalité, ça n'a jamais vraiment marché.
Ça fait
pas très longtemps.
Bien, Daniel.
Ouais. Ça fait pas
très longtemps. C'est la société de consommation qui nous pousse à ça.
Il y a ça.
Bah, évidemment.
Et puis en plus, c'est l'émancipation des femmes. Ah, c'est quand même terrible.
Quelle sale conne.
C'est aussi les normes sociales. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des institutions, le mariage devait tenir, l'église faisait que le mariage devait tenir. Voilà. Aujourd'hui, il y a une question d'héritage aussi, hein, d'héritage paternel. Mais aujourd'hui, c'est un choix de rester ensemble. Et rester ensemble, effectivement, avec l'allongement de la durée de la vie, le fait de choisir, c'est évidemment beaucoup plus éthique. Et ça pose la question des valeurs personnelles. Mais sur ces valeurs-là.
Est-ce qu'on peut aimer deux personnes ? Ou est-ce que, justement, c'est quelque chose qui n'est pas concevable ?
Alors,
Quand on est parent, on dit que l'amour se multiplie, ne se divise pas entre
c'est
les
Victor
enfants.
C'est Victor Hugo.
Et oui, absolument.
Bien sûr.
Et lorsqu'on est en couple, c'est l'inverse.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, pardon Nagui, c'est que.
Je vous prie.
En fait, aujourd'hui, on est tout à fait d'accord pour penser qu'on peut aimer plusieurs personnes à tour de rôle.
on divorce, on divorce ou on se sépare.
Non, moi je parle en même
en
temps.
Même
voilà.
Temps.
Et on, oui, mais alors.
Tant que ça nous est pas arrivé, on peut pas savoir en fait.
Voilà. Donc ça, la première question que ça pose, c'est pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut aimer des gens différents successivement et pas forcément en même temps.
Ouais.
Je pense que ce que ça joue, c'est la question de l'unicité. En fait, ce qu'on aime aussi dans l'amour, c'est qu'on est unique pour quelqu'un. C'est que on est merveilleux, exceptionnel, et on est choisi par cette personne. Si on commence à être trois, eh bien, on n'est plus aussi unique. Et ça, on a du mal dans notre ego à penser que effectivement, on n'est pas cette personne qui peut tout combler.
C'est
pour
pas reposant
l'autre.
Plutôt. De dire qu'on n'est pas tout seul à assumer.
Suivant.
Non mais parce que
moi j'y vais pas. Vas-y.
On peut se sentir. Non mais c'est se sentir complètement à la hauteur et combler l'autre seul. C'est quand même un truc un petit peu mégalo, non? D'imaginer que seul on peut combler une autre personne.
Bien sûr, c'est un peu mégalo, en tout cas, c'est bien sûr, mais on est un peu tous jusque-là élevés là-dedans.
Sophie Brown, vous avez signé sur le burn-out, les fatigues chroniques, les phobies sociales ou scolaires, la tentation du repli aux éditions Mots Conduits. Merci mille fois d'être venu à ce micro. Voici Emma Beaujean.
Oh oui, Emma.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux calendriers de l'Avent. Les calendriers de l'Avent, ce mensonge collectif qu'on accepte tous sans broncher. Je rappelle que moi j'ai des troubles du comportement alimentaire, d'accord ? Donc pour moi le calendrier de l'Avent c'est un gros goûter ludique. Officiellement c'est pour faire patienter jusqu'à Noël, officieusement c'est pour m'humilier. Juste pour me rappeler que je suis incapable de tenir une règle pendant 24 jours, même 2 jours en réalité, parce qu'à chaque fois c'est pareil, je me dis bon allez juste une case, oh, puis 2, et puis le 3 décembre je me retrouve à dégommer le 19, le 20 et le 21. Et le pire, c'est qu'après je referme les petites portes en carton. Je vous rappelle que je vis seule. Pourquoi fermer les cases, manger en avance comme si Jésus m'avait pas déjà vu éclater la deuxième quinzaine de décembre? Et vous, et chaque année je continue d'y croire, je recommence. Cette année, ok, j'avoue que j'ai pris un petit calendrier Kinder. Lui c'est un peu la version premium Kinder. Au Franprix, la caissière elle m'a dit ah ben c'est bien, c'est les enfants qui vont être contents. Bien sûr, c'est pour les enfants, bien sûr. Alors que non, la seule chose qui fait que cette année j'ai opté pour le calendrier Kinder, c'est que j'ai un salaire. Alors, j'ai aussi appris l'existence des calendriers de l'Avent pour adultes. Attention, pas adultes, non, adultes dans le sens où c'est des calendriers de l'Avent ultra chiants. Par exemple, moi j'ai reçu un calendrier de l'Avent avec du thé. Mais ça va pas ou quoi? Le projet c'est que t'as payé 30 euros et pendant 3 semaines, tous les matins, tu vas boire de l'eau chaude surprise. Génial, envie de me faire sauter le caisson perso. Après, je dis calendrier de l'Avent pour adultes, un peu chiant, mais il y a ça aussi avec les vrais calendriers de l'Avent pour adultes en mode grrrr. Même fait maison, avec dans chaque compartiment un petit jeu, un petit gage sexuel. L'an dernier, je l'ai fait avec mon mec pour pimenter notre couple. Est-ce que ça a marché? Je vous ai dit que désormais, je vivais seule. C'était un fiasco parce qu'en fait, le 1er décembre, bah, il avait la case bon pour une fellation. Pas mal, pas mal. Après, les autres, je m'en rappelle plus parce que de toute façon, il a passé les 23 jours suivants à me dire tu veux pas juste me ressucer en fait? Il y a un truc que j'aurais pu faire cette année. Merci, c'est pour le public. Il y a un truc que j'aurais pu... Vous allez grandir en sortant d'ici. Il y a un truc que j'aurais pu faire cette année, c'est le calendrier de l'Avent de la bande originale. Chaque jour, un hommage à l'un ou l'une d'entre vous. J'aurais dû faire ça, mais j'aurais fait comme avec les chocolats, j'aurais craqué le premier jour et j'aurais tout fait d'un coup. Alors, petite propale, et ben, je vous le fais maintenant.
Ah ouais.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à vous tous. Alors même si elle n'est pas là aujourd'hui et elle est là tous les autres jours de la semaine, donc je suis obligée de penser à elle, à Lisa Delmoitié. Lisa, merci pour tous les conseils que tu m'as donnés quand j'ai attaqué la chronique en quotidienne cette année. C'est grâce à toi que j'ai su que c'était la pire idée de ma vie. Bruno Pecky, merci pour cette belle nuit qu'on a passée tous les deux. Enfin tous les deux, tous les trois. Moi, cette photo de toi et mon womanizer. Camille Lavabre, merci pour ta bienveillance, pour ces heures de conversation qu'on a eues ensemble avec des sujets toujours aussi variés. On parlait de Marseille, on parlait de Joule, on parlait de l'OM. Merci pour cette belle diversité. Tanguy Pasturo, merci de m'avoir inculqué la patience. Grâce à toi, je sais que je peux avoir une longue carrière. Et si je veux marcher dans tes pas, plus que 12 siècles à boire du sang de biche en pleine lune. Merci. Oldelaf, merci pour ta générosité. Il faut vraiment le voir partager partager son sandwich et sa canette de 8-6 le matin avec Capitaine Moustache, sa petite souris qui l'accompagne partout. Nicolas et Lucas, bah, je peux pas faire un tour de table sans parler de vous. Non mais attends, Nicolas et Lucas, c'est quoi ces prénoms? Et puis quoi encore, Étienne et Amaury? Oh, j'ai rien trouvé à dire car je vous admire, vous et vos carrières. Daniel Morin, bah, merci pour le vélo que tu m'as offert pour mes 7 ans. Leïla, merci vraiment pour ton regard sur la vie, toujours précieux. Ce matin même, tu me disais que la vie est un labyrinthe sans plan où la conscience avance en feignant le sens que nous appelons choix, ce que l'habitude a déjà décidé, et liberté, l'intervalle entre ces deux nécessités. Grave dac. Nagui, OMG, ma vie, mon nag. Merci de m'avoir embarqué dans cette belle aventure cette année, même si j'aurais préféré que tu me donnes ton chalet au ski. Et ben oui, c'est important. Hommage aux hommages, parce que c'est à peine la moitié de la saison et je me sens déjà nostalgique. Je plaisante, je me sens déjà en burn-out. Et en réalité, je dois vous rendre un vrai hommage à vous tous autour de cette table pour des raisons différentes. Chacun et chacune, vous m'aidez à avoir confiance en moi et mon travail. La bande originale, c'est un des premiers endroits où tout ce que je fais, ce que je suis, ce que je représente, c'est pas trop. C'est peut-être ça, les vrais calendriers de l'avant adulte. Chaque jour, se sentir un petit peu plus à sa place. C'est à vous que je rends hommage aujourd'hui.
Merci.
Et bien bonjour pour Le Pic, les mardis à 19h.
Tanguy, de quoi vas-tu nous parler dans la prochaine demi-heure?
Mais des films Netflix, il y a Matt Damon qui est un ami qui en a expliqué les rouages de la création, c'est très intéressant.
La bande originale, oui, c'est reparti avec Leïla Kadoumou-David, Daniel Morin. Le meilleur de la bande avec nos invités du jour, Leïla.
Nos invités, c'est Nicolas Maury, Lucas Bravo pour la série diffusée sur Arte, les saisons.
Ah bah c'est Arte, bah forcément c'est super. Moi depuis la fin de C8, j'ai brûlé ma télé.
Avec cette série Les Saisons sur Arte.tv, pour suivre cette série, il y a cette histoire donc d'amour adolescente au pluriel entre ces trois personnages qui vont évoluer avec le temps. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qui guide par moment les choix ou les doutes, et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que Camille est promenée, ballottée, et elle aime les deux, mais elle ne sait pas pourquoi elle va plutôt vers l'un, plutôt vers l'autre. En tout cas, nous, on le sait pas. Est-ce que elle le sait?
Je sais pas. Oui, elle le sait. Je sais pas. En fait, c'est. Je sais pas quoi dire.
Est-ce que vous avez vu la série?
Quand on a lu Proust.
Que dit Marcel, ouais, c'est ça. Non. Non. Qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, de toute façon, dans cette histoire? C'est intéressant, comme vous allez vous mettre à la...
J'ai rarement des pannes, mais là, j'ai une panne, parce qu'il y a tellement de conscience, jeune conscience devant moi. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, non, c'est...
Non, enfin, il faut préciser à ceux qui nous écoutent que
oui,
nous
y a des
avons
très jeunes gens.
Une vingtaine. Oui, c'est ça. Vous êtes en quel cas
troisième.
Ah oui, c'est le fameux stage de troisième.
Voilà.
Et sincèrement, il préférait être à l'entraînement du PSG. C'est sûr.
Ce que je veux dire, c'est, ouais, que, oui, c'est que c'est pas tellement une femme au milieu de deux hommes qui n'arrive pas à choisir. Ça, c'était très important pour moi, un triangle à trois côtés. Et je crois que, par exemple, Martin, par exemple, dans La Dame de la Mer, dont je suis inspirée, qui est d'Ibsen, que je vous conseille, vous avez peut-être au programme, c'est qu'en fait, il y a toujours l'appel dans un couple, l'appel de l'ailleurs. C'est une femme qui est mariée à un docteur et qui voit au loin passer comme ça un capitaine. Et donc, cette espèce d'appel du large, cet appel de l'ailleurs qu'on ressent en soi, parfois, si on est honnête. Mais, comme on dit, l'herbe est pas forcément plus verte. Et en fait, j'ai voulu mettre en scène surtout les deux autres hommes, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans une histoire quand on aime. C'est que et je crois même que parfois quand elle va plutôt vers Martin, c'est aussi parce qu'il y a un blues du personnage d'Alexandre qui m'intéressait beaucoup, moi, de voir un homme qui traverse une faille, et puis un peu le blues du bel homme qui est docteur et tout ça. Il y a une charge aussi parfois sur les hommes de gérer, quoi, comme on dit. Ouais, moi je gère
d'assurer.
Non, mais même, ouais. Et pour aller plus loin, vous vouliez qu'il soit beau, qu'il soit intelligent, qu'il réussisse,
oui,
et que justement, comme il a tous les atouts,
bravo,
pour lui,
voilà,
il y ait quand même cette fragilité,
voilà, et quand même, ouais, pas suffisant. suffisant parce que c'est pas, on n'a pas 20 sur 20 quand on a, pour son partenaire, enfin. Et donc elle va à ce moment-là vers Martin et elle se rend compte que Martin non plus, c'est peut-être pas par là que ça va marcher. Et encore une fois, je le dis, elle écrit le roman de sa vie, mais parce que elle s'autorise peut-être à un moment donné à dire pourquoi choisir, quoi, pourquoi. Et si ce serait beau, peut-être une cohabitation. Je sais pas, moi, j'ai pas, je suis célibataire, en fait.
Et puis, il y a ces histoires.
Donc, Emma.
Cette histoire verticale aussi de filiation, parce qu'il y a Mado, il y a Suzanne, il y a Camille, il y a la fille aussi de
Romane.
Où on voit finalement que les schémas se reproduisent.
Bravo. C'est cet héritage-là qui n'est pas qu'un héritage de choses matérielles, je le pense, mais d'héritage de secrets, de désastres. Moi, j'adore ce terme de désastre. Il peut y avoir des désastres magnifiques, comme on dit, un désastre c'est un astre qui tombe, et tout ce qui tombe, moi je pense que ça se relève. Et je crois qu'on hérite des désastres et des façons d'aimer, malheureusement pour le meilleur.
C'est peut-être dans notre ADN sans qu'on s'en rende compte finalement.
Vous voulez dire dans notre ADN?
Ouais.
À tous les deux.
Martine Chevalier joue Mado, Géraldine Pellas joue.
Oui, j'adore continuer. Faut l'acculer comme ça.
C'est un verbe.
Ouais, ouais.
Alors, on a été prof de français, il n'y a que ce mot qui te vient.
Bien sûr, parce que c'est très précis.
Stéphane Keyin joue Camille.
Je sais plus quoi faire.
Et Romane, et j'ai plus le nom d'actrice.
Ben, c'est Marisol Fertard, c'est la même qui joue
Camille.
Ah, c'est
ça, exactement.
Non, ce que je voulais dire, j'ai oublié.
Mais encore peu de panne.
Non, pardon, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a troublé votre question et pas que votre question. Non, là, je rigole. Non, c'est-à-dire. En plus, je vous ai dit que j'en parlerai pas, et là, j'en parle à fond. Non, ce qui est important dans la vie, c'est de, par exemple, au cinéma, il y a toujours la mère du personnage ou la femme du personnage. Et je crois qu'il faut arrêter tout ça avec nos années de psychanalyse qui parfois ne font pas du bien. C'est que on n'est pas que, c'est pas la faute de ma mère, la faute. Des fois, sa mère, on la considère comme un petit étang. En fait, c'est un océan, sa mère. Et sa mère, c'est quelqu'un d'autre que sa mère. Et donc ces femmes sublimes que sont Martine Chevalier, donc la grand-mère, Géraldine Pellas, Stéphane Caillard et Marisol Fertard, ce que je voulais, c'est tout à coup des points de vue, elles sont hétérogènes, c'est pas que, je suis pas que la fille ou la petite fille. Et j'aime beaucoup parce que, au sens durassien du terme, elles se rencontrent. Et que la rencontre, moi c'est ce qui m'anime avec une caméra, c'est-à-dire... C'est pas on se rencontre une fois, quoi. On passe une vie, c'est ça l'amour, à continuer, c'est un travail, à se rencontrer. Et je pense que Camille, Alexandre et Martin, je suis un peu énervée là, Camille, Alexandre et Martin passent leur vie à s'aimer en se rencontrant.
Lucas Bravo, est-ce que la manière dont Nicolas en parle avec totalement passion était ressentie sur le plateau, justement dans ses directions, dans la manière dont il vous dirigeait, dont il expliquait finalement les arcanes des acteurs, ou est-ce qu'il savait exactement ce qu'il voulait et vous disait maintenant joue ça? Est-ce qu'il allait dans cette part de psychologie justement et d'analyse?
Écoutez, quand on a lu Proust, non, mais ça vous donne vraiment
comme il est au quotidien.
Un petit échantillon de ce qu'on était sur le plateau, c'est-à-dire qu'on arrivait le matin et il nous réunissait tous et il nous expliquait ce qu'on vivait, l'atmosphère de l'époque, les enjeux, et il nous mettait tous dans une ambiance. Il y avait parfois de la musique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mélodie et que nous étions des instruments et on s'accordait à sa mélodie, parce qu'il arrivait vraiment avec sa mélodie le matin.
Dans les mélodies de la série, il y a également. Évidemment, Laurent vous le dit. Mais aussi.
Baccarat.
Trop plaisir de réentendre ce titre. Ouais, non, j'adore, avec les cordes. Les saisons passent donc sur arte.tv en ce moment. Voici Tanguy Pastureau, le vrai. Viva!
Je sais pas si vous aimez Matt Damon, moi j'en ai rien à foutre. Comme de tous les Américains, ces voleurs de Groenland. Attaquons-les, vas-y Manu, montre donc ce que t'as dans le slip. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Pour l'instant, t'as les lunettes de soleil de Top Gun, mais y a personne dans l'avion de chasse, bébé. Pardon, je crois que je regarde trop de fiction Netflix. Elles sont toujours tellement intenses que dès que ça s'arrête, je suis en manque de dopamine. À l'époque de Louis la Brocante, on n'avait pas ce problème. Le climax, c'était le jour où il a vendu un lot de 4 chaises. Matt Damon a parlé de ça en interview. Je l'ai écouté en x10 parce que j'arrive plus à écouter des propos
tempo à la vitesse normale. L'œil rouge, je l'écoute en x300, ça reste lent. Hein. Et il explique Matt, je vais essayer de transcrire ce qu'il dit, mais j'ai jamais été très bon en maths. Oldelaf, je sais que sur cette vanne, tu es fier de moi. Voilà. Et il explique qu'il y a eu trois phases dans la production de film. Phase 1, ils étaient projetés au cinéma, donc tu étais concentré sur le film. Il n'y avait rien d'autre à faire à part regarder d'autres gens manger des pop-corns, ce qui n'était stimulant que si tu étais cadre commercial chez BAF. Phase 2, il y a eu les diffusions télé. On restait concentré avec toutefois des stimuli extérieurs. Le chat qui se gratte, ton conjoint qui se gratte. En général, le fait de se gratter attire les regards. Si Marine Tondelier se gratte, peut-être qu'elle va enfin faire un score à la présidentielle. La moitié de ses fringues, c'est du chanvre équitable. Si avec ça, tu te grattes pas, tu te grattes jamais. Phase 3, la diffusion se fait désormais sur Netflix, aujourd'hui, pour des spectateurs qui doivent être accrochés tout de suite. Sinon, ils zappent sur les 30 000 autres films proposés. Et tout dans la vie est comme ça. Ah mon Dieu, Daniel est en train de s'approcher de moi. Il a retiré son jean et a en tatouage sur l'aine le visage de Rachida Dati. Tout ça est faux, mais il faut capter l'attention des auditeurs. Là, un tigre à dents de sable. Bon, vous avez compris le principe. Là, Vincent Bolloré, ça y est, il a racheté la boîte et va virer tous les gens de gauche. Qu'est-ce que je vais faire tout seul ? Matt Damon, malgré un regard de tourteau et un charisme proche de celui du pancake, puisque créer du clash permet de retenir l'attention des gens. Matt Damon connaît bien l'industrie. Il explique qu'avant, un film d'action, c'était trois scènes marquantes, puis un final avec plein d'explosions. Les films avec Stallone, par exemple, les vieux films, c'était ça. Rambo, il arrivait, il butait une personne, puis passage où on le voyait dans le doute, cette personne, c'était l'enfant de quelqu'un, j'ai abusé. Voilà. Puis il butait le frère. Puis il butait le frère de l'autre venu le venger. Puis il y avait un flashback où on le voyait dans la jungle, comme rendez-vous en terre inconnue, mais sans le respect de l'autre, hein, parce qu'il brûlait le village, ce que n'ont fait ni Kev Adams ni Muriel Robin. Puis à la fin, avec une seule flèche enflammée, il touchait quatre hélicoptères qui s'écrasaient à un mètre de lui. L'épale d'un des hélicoptères lui frôlait la tête. Juste avant, il avait une nuque longue, il repartait avec une brosse. Et nous, on sortait du cinéma en se disant le dernier film qu'on a vu, celui d'Éric Rohmer, et c'était plus calme. Hein, il y avait quatre hélicoptères de moins que les quatre qu'il y avait dans Rambo. Et maintenant, que dit Matt Damon ? Attention derrière vous, il y a Corinne Maziero qui arrive, le corps simplement recouvert d'un tract de lutte ouvrière. Eh bien, il dit que tout de suite, il faut une grosse scène. C'est que d'abord, la centrale nucléaire explose et ensuite, seulement l'unique survivant décapsule un sprite en disant au niveau du planning, ça va être plus simple à gérer. Et ensuite, Netflix demande à ce que la tension ne retombe jamais. C'est pour ça que tout est frénétique. Là où avant, ça se bisoutait tranquillement. Mais maintenant, le couple de héros fait l'amour dans une voiture, elle-même dans une casse, prête à se faire broyer. Et ils continuent. Nous, quand une latte du lit casse, on dit « Ok, pause ». Mais eux, une fois lancés, ils n'arrêtent plus comme des bêtes. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature sous mon bureau ? Enfer, c'est un elfe. Oui, j'ai mis un peu d'Heroic Fantasy hein, pour que le public reste dans la chronique. Oh, quelle beauté cette licorne ! Suis-je le seul à la voir ? Comme la fois où, pensant prendre du CBD, j'avais pris du HHC. CF, une chronique de 2023. Donc, résumons. Une fiction aujourd'hui ne doit jamais retomber. Personne ne dort, personne ne s'assoit. Même quand ils sont en train de se reposer de la guerre bactériologique de la veille, ils jouent à chat. Mais en plus, Matt Damon explique qu'à intervalles réguliers, on doit réexpliquer l'intrigue parce qu'on regarde tout en scrollant nos réseaux, donc on a lâché. Donc le héros se retrouve face au monstre et dit « Attends, ne me dis rien. Ah, je vois, il y a 7 minutes, tu as dévoré la tête de ma mère. Mais oui, tu es extracteur. » Et là, le monstre, un extracteur de jus machiavélique, répond « Oui, c'est cette putain de jeunisse, j'ai cru que ta maman c'était un citron. » J'ai conscience, les amis, que si on écoute cette chronique sobre, on a du mal à en déterminer les contours. Ah, Mélodie Fontaine vient de retirer son masque en latex. Depuis tout ce temps, il s'agissait en réalité de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça va de faire des vannes sur le Nord-Pas-de-Calais alors qu'on a supprimé toute sa famille ? Aujourd'hui, il faut que ça avance. Les fictions, l'actu, tout, je suis en manque. Ça fait 10 minutes que ce studio n'a été détruit ni par un tremblement de terre, ni par un cyclone. On me dit même que ça fait 20 minutes qu'aucun chroniqueur de France Inter n'a suscité de polémique nationale. Moi, j'aime bien les séries et les films d'action Netflix. J'adore les explosions. Je suis pas contre, parce que je suis distrait, que toutes les 7 minutes, le héros hurle. On est d'accord que je m'appelle Steven, que j'ai 29 ans et que cette rage que j'ai me vient de la mort de ma mère quand j'étais en maternelle. Mais j'aime aussi les séries planantes, atmosphériques, les films d'auteur où se murmurent des phrases délicates. Regarder Netflix, en somme, n'est qu'une option parmi d'autres. On peut aussi aller au ciné. Par exemple, on est concentré dans son moment à soi, à part pour les cadres de chez BAF qui regardent leurs voisins manger du pop-corn.
Merci. On revient dans la bande originale de votre matinée juste après Arlo Parks, Two Sided.
Heartbeat climb, the moonlight cuts.
C'était Allo Parks avec tout ça a été sur Inter dans la bande originale.
Et là, j'ai fumé.
Pierre.
Les saisons sur Arte, cette série, mini-série ou grand film, 4 épisodes, réalisé par Nicolas Maury, qui joue le rôle de Massimo également dans cette série, aux côtés de Luca Bravo, qui est notre invité. Il y a également Abraham Wappler, Stéphane Gaillard, Marisol Fertard, Martine Chevalier, Géraldine Pellas, Emmanuel Hiron, Ophélie Beau, Pauline Barigo, Régis Nkissi et Yasser Nassif.
Vous, vous avez une passion pour quel acteur ? Quel acteur vous fascine ? Quel acteur, dans ses moindres mouvements, vous ne pouvez pas décrocher votre regard ?
Robert De Niro,
oui.
C'est vraiment pour moi l'acteur, comme je dis souvent, un personnage au cinéma, c'est une personne plus de l'âge. C'est-à-dire que pour moi, c'est autant un documentaire sur l'acteur qui est en train de jouer le rôle. Et par exemple, De Niro dans Mean Streets, où on voit un chien fou arriver dans le premier film de Scorsese, jusqu'à Casino, qui est un de mes films cultes, moi, où j'ai... Et puis pour la petite histoire, c'est que mon papa, qui est parti il y a 2 ans, ressemblait vraiment beaucoup, beaucoup à De Niro. Et j'ai le même grain de beauté que lui, je peux faire comme ça.
Oh, j'ai cru un moment, là.
Bah oui. Et non, il y a lui, puis il y a aussi moi, il y a surtout des actrices de ma vie qui sont pour moi les vrais soldats, mais Lucas, et je me suis aperçue qu'il était aussi un peu actrice, et c'est un grand acteur que j'admire.
Et vous, Lucas?
Merci. Je pense la même chose de toi. Mads Mikkelsen était là quand on s'est rencontrés,
ah,
justement.
Oui, quand vous l'avez évoqué tout à l'heure, je me suis dit,
et il est d'une classe, d'une élégance et d'un il est facile, quoi. Il est vraiment facile et il est toujours il fume ses cigarettes sans filtre. Il faut pas essayer de boire de l'alcool avec lui.
Ni son agent
oui,
non plus.
Les deux vous couchent facilement. Ouais. Ouais. Mon père était là, d'ailleurs, je l'ai amené à un des événements et il a essayé de voilà, ça s'est mal fini pour nous.
Et pourtant.
C'est pas bien.
Parlons théâtre un tout petit peu, Nicolas Maury.
Oui, je vais jouer Proust, justement, c'est pas une blague, au théâtre Marigny. En mars.
Et c'est vrai que vous préparez un album avec Adrien Gallo qui a fait la musique de Oui. La saison.
Oui.
Racontez.
Oui, j'avais déjà...
Un nouvel album. Vous avez déjà sorti un album.
Un album, ouais. il y a quelques temps. Et là, c'est mon deuxième chemin. Je sais que tu
reviens. Ça, c'est vous.
Et voilà, et le deuxième album, on a 8 chansons. Et c'est... Ouais, j'ai rencontré un frère, quoi, un frère.
Et 10% le film va voir le jour ou pas, finalement?
Oui, oui, on l'a tourné.
Là. C'est fait.
C'est okay. fait, ça va être assez fou. C'était incroyable parce que ces personnages ne nous appartiennent plus. Et on avait tous une responsabilité par rapport à cette attente quand même assez démente, worldwide, comme on dit. C'est qu'elle est devenue internationale, cette série. Et je crois que ce sera à la hauteur, j'espère.
Série internationale également, Lucas Bravo, la saison 5 d'Emily in Paris sur Netflix. C'est quand même une belle histoire ça risque d'être un boulet à vos pieds.
Bah, je sais que ça va me suivre toute ma vie. Après, ça a tout démarré pour moi. Donc, même si au début, j'avoue que les premières années, je luttais un peu contre
l'image.
Cette image qui allait me coller à la peau parce que je voulais apporter de la nuance un peu à ma carrière. Maintenant, j'ai un peu compris qu'il fallait. Faut pas aller à contre-courant. Je suis content que les gens connectent avec cette série. Je suis content de ce que ça leur apporte.
Et vous croisez des réalisateurs intelligents qui peuvent vous voir autrement que dans le personnage d'Emily.
Croiser Nicolas sans ça, c'est vrai.
Voilà. Et puis surtout en faisant d'autres films, on peut embrasser Julia Roberts, je le rappelle. Ouais, il l'a fait. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour Nicolas Maury qui a subi les vexations, les agressions, les humiliations du couple Ceausescu, du service public, les Balkany de la culture, Nagui et Leila. Il ne restait plus que l'humiliation physique. Le prenez pas mal, Nicolas. Vous savez qu'on a dit M, il est méchant, très très méchant. Et waouh, qu'est-ce qu'il vous aime. Désolé pour la précision journalistique qui a été sagouinée par Nagui quand il s'est lancé dans un dérapage incontrôlé en appelant la série Merteuil-Valmont, en confondant Lucas Bravo, Vincent Lacoste. Voilà, c'était du même acabit. Et dire qu'il a fait ça devant des élèves, j'ai du mal à ma carte de presse et à l'éducation nationale. Désolé encore une fois pour vous, Nicolas. Nicolas qui a découvert ce matin que Nagui... Son fantasme inavouable, son ADN, son Fennec expiègle, son sarcophage interdit, enfin bref, avait pris quand même un sacré coup de pelle. Salut, bon.
On va se quitter sur cette musique pour les saisons, les 4 épisodes sur arte.tv et 4 saisons également pour 10%, je suis en train de réaliser. Ça vous poursuit, hein, les 4 saisons. Elles sont intégralement visibles sur...
Netflix,
voilà. Qui est fait. Merci beaucoup, Lucas Bravo. Merci beaucoup.
Merci à vous,
Nicolas Maury. Et surtout, bravo. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Leïla. Merci Daniel.
On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un autre duo, beaucoup plus sanguinolent, celui-là.
Ah bon?
À savoir Chirine Boutella et Arthur Dupont.
Cette émission n'avait aucun intérêt. J'étais pas là, mec.
Passez une belle journée sur Inter.